Merci, Joël, pour cette belle lecture. Ben, je vous invite à prier, chers amis, avec moi, et puis nous verrons plus sur ce magnifique prédication de l'apôtre Pierre. Ben, prions ensemble. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Effectivement, Seigneur, nous te demandons que tu nous accordes cette allégresse et cette joie, parce que nous avons compris et nous avons cru que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est Seigneur, qu'il est Messie. Nous te prions, Seigneur, donc d'agir, et cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais donc, il est ressuscité, nous venons de le dire, c'est au cœur de l'espérance chrétienne. Est-ce que vous avez l'espérance? Est-ce que vous avez de l'espoir? Peut-être pour certaines choses, pour ses vacances, peut-être pour un changement d'emploi, peut-être pour la retraite qui arrive, peut-être pour une visite de la famille. Mais est-ce que vous avez une espérance encore plus longue? Alors l'Église chrétienne déclare notre espérance par rapport à un avenir à plus long terme. Pour des années, des milliers des années, nous avons une espérance. Mais qu'est-ce que ça signifie d'avoir une espérance chrétienne? Pourquoi Jésus est ressuscité? Comment est-ce que cela change quelque chose pour nous? Et donc, on se penche sur cette première prédication chrétienne après la résurrection. Cette prédication de l'apôtre Pierre. À peine quelques semaines après la résurrection elle-même. Et c'est qui prêche? C'est Pierre qui prêche. Et lui, Pierre, il incarne pour nous l'espérance, je pense. Lui, c'était l'un des plus proches de Jésus. Lui, il aimait Jésus. Il disait qu'il était prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, peu importe le prix. Même au coût de sa propre vie, il avait dit. Et puis, sous pression, pendant ces événements de la Semaine Sainte, il a honte de son association avec Jésus. Il nie toute connaissance de Jésus. Au moment où son amitié aurait dû se manifester, lorsque Jésus devait souffrir, Pierre lâche son ami. Il avait peur, il avait perdu confiance en Jésus. Jésus qui semblait faible tout d'un coup. Jésus qui semblait avoir perdu contrôle des événements autour de lui. Et du coup, lors de la mort, la crucifixion de Jésus, Pierre l'avait abandonné. Mais maintenant, ne fût-ce que quelques semaines plus tard, dans la même ville où la crucifixion a eu lieu à Jérusalem, et ouvertement devant un grand public, ce même Pierre, il prêche, transformé par cette espérance qu'il a. Je pense que l'une des preuves les plus persuasives de l'historicité de la résurrection historique, physique, corporelle de Jésus-Christ, c'est en effet la transformation des disciples de Jésus. 11 hommes, évidemment ils étaient 12, mais l'un est parti, Judas l'a trahi. Mais 11 autres, comprenant des commerçants, des piégers, des pêcheurs, des sceptiques, qui ne voulaient pas croire, sceptiques, ils se transforment tout d'un coup dans une bande d'hommes courageux. La plupart d'entre eux, selon l'histoire de l'Église, payent pour la foi avec leur propre vie, plutôt que nier la réalité de la résurrection qu'ils ont vue. Leurs écrits de ces 11 hommes sont encore lus à Bruxelles, en 2018, en 2000 ans après qu'ils ont pris en main leurs plumes, c'est frappant, n'est-ce pas? Malgré leur manque d'éducation formelle, qu'est-ce qui explique une telle transformation? Il ne s'agit pas, voyez-vous, d'un mythe. Petit à petit, l'Église chrétienne a commencé à construire une histoire pour dire que Jésus est ressuscité. Non, historiquement parlant, nous savons que la résurrection physique et corporelle de Jésus était proclamée dès le début, juste après sa mort. Si aujourd'hui les sceptiques disent « Oh, mais ils étaient peut-être bien intentionnés, ces disciples, ces chrétiens. » Mais évidemment, ils parlaient d'une résurrection, disons, spirituelle. Ce que disent parfois des gens. Ils étaient tristes, ces disciples. Ils avaient perdu un peu leur capitaine, on peut comprendre. Ils avaient besoin de faire persister leur foi en disant Jésus via une doctrine qu'ils appelaient la résurrection. Parce qu'ils avaient sorti ce genre d'argument à l'époque des événements, ils auraient été ridiculisés. Parce que tout le monde savait qu'il n'y avait pas de temps pour un tel mythe de prendre forme. Même les ennemis de Jésus, qui avaient le plus grand intérêt à nier la résurrection de Jésus, ne niaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas le nier, que le tombeau de Jésus était vide. Aucun disciple de l'époque s'attendait à un tel événement. Oui, ensuite, avec du recul, ils comprenaient les Écritures qui précédaient le Nouveau Testament. Mais au moment même des événements, ils ne s'attendaient pas à la résurrection. Ils étaient accablés, déçus, peureux par rapport aux autorités autour d'eux. Et puis, tout d'un coup, quelques semaines plus tard, l'ensemble des disciples, chacun avec leur personnalité différente, est transformé pour proclamer un message qu'on continue à proclamer aujourd'hui. Pourquoi ? Eux, ils se disaient témoins de la résurrection. Eux, donc, ils savaient oui ou non. Si eux, ils avaient volé le corps de Jésus, eux, ils savaient oui ou non. S'ils n'avaient jamais, pour finir, vu le corps vivant, physique, corporel de Jésus après sa mort. Ils le savaient. Oui, cela paraît peut-être étrange. Mais ensuite, aucun d'entre eux revient en arrière. Aucun. S'il s'agit d'un complot, d'une idée, « Ah, écoutez, voici ce qu'on va dire, les gars. » À un moment donné, on s'attend à ce que la vérité sort. Mais aucun d'entre eux revient en arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient ce qu'ils ont vu, c'était vrai. Ils l'ont vu, Jésus. Ils l'ont touché. Ils ont discuté avec lui. Ils ont mangé avec lui. Et donc, Pierre, lors de la résurrection, a connu de la part de Jésus lui-même un rétablissement complet par rapport à son reniement. Jésus avait prié pour Pierre, afin que sa foi ne se disparaisse pas, il disait à Pierre. Jésus lui avait dit, « Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et donc maintenant, Pierre se lance dans cette prédication pour affermir ses frères. Et donc, ce n'est pas étonnant que Pierre, lorsqu'il commence sa première lettre, ici on est dans sa première prédication dans le livre des Actes, mais dans sa première lettre, la lettre de 1 Pierre, qu'il écrit un peu plus tard, il commence cette lettre comment ? Avec le verset que Roby nous a lu tout au début de ce matin. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » La résurrection de Jésus permet de naître de nouveau pour Pierre, et aussi pour nous, pour une espérance vivante. Et je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette espérance, chers amis. Mais cette espérance pourrait être la vôtre ce matin, grâce à la résurrection de Christ. Peut-être que vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous êtes invité ou vous vous trouvez ici un peu de contre-cœur. À la limite, vous dites au fond de vous-même, vous êtes un peu hypocrite, un peu troublé de ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Mais le message de la résurrection donne de l'espoir, une espérance vivante. Peut-être que vous êtes chrétien, de longue date, mais toutefois accablé par une situation difficile. À la maison, au travail, peut-être qu'il y a même des relations difficiles au sein de l'Église. Peut-être que vous êtes découragé dans votre lutte dans la sainteté. Et vous vous dites, puis-je croire vraiment cette espérance est vivante? Le Pâques, c'est le moment de se rappeler, peu importe nos circonstances, de notre espérance qui est là, qui est solide. Et si Pierre pouvait connaître cette transformation dans son approche de la foi, ben nous pouvons le connaître également, chers amis. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, alors, la résurrection de Jésus? Et c'est là où nous allons nous focaliser, sur ce verset 36 en acte 2, la culmination de cette toute première prédication de Pierre. Donc acte 2, verset 36, si vous l'avez dans vos Bibles. Que toute la communauté d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui, donc la crucifixion a bien eu lieu. Verset 23, plus tôt dans la prédication, Pierre n'hésite pas à dire, vous l'avez arrêté, vous, les autorités juives de l'époque, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais début de la phrase du verset 23, cet homme, vous avez été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Donc la crucifixion n'était pas pour finir un accident. Oh non! Tout allait bien et puis, crucifixion, mauvaise nouvelle. Non, bien que crucifié, Jésus est revenu à la vie. Il est le Seigneur, il est le Messie. Le Messie, c'est le roi choisi par Dieu. Jésus, donc, est Seigneur et roi, celui désigné roi par Dieu. Il règne aujourd'hui grâce à sa résurrection. Mais où est-ce qu'il règne? Ben, il règne surtout, sur toute la terre, toutes les nations. Et certains pourraient répondre aujourd'hui, ben super, c'est ça ce que vous dites, les chrétiens. Mais d'après ce que je vois, ce n'est pas Jésus qui règne aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? Aujourd'hui, c'est plutôt Trump, ou Macron, ou Poutine, ou Juncker, Kim Jong-un pour d'autres, etc. Eux, ils ont des royaumes visibles, n'est-ce pas? Donc plus réels que ce royaume, soi-disant, de Jésus. Bah, pour nous aider à comprendre pourquoi c'est néanmoins le cas que Jésus règne réellement aujourd'hui, Pierre fait un contraste dans son message entre, d'une part, le roi David et d'autre part, Jésus. David, dans un psaume que Pierre cite ici, avait parlé de son espérance quant à son règne, verset 27, de notre texte où Pierre cite David dans le psaume 16, verset 27. David disait, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Donc, on pourrait se dire, ben alors, c'est vrai pour David, alors David vit-il encore aujourd'hui? Parce que Dieu avait promis, verset 27, que tu ne permettras pas ton sein de connaître la décomposition. Non, verset 29, Pierre les aide à comprendre dans sa prédication. « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. » Alors, qu'en est-il de David? Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, en dernière analyse, David, dans le psaume 16, ne parlait pas de lui-même. Non, selon Pierre, verset 30. Oh, David était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, le roi choisi par Dieu, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est vrai ça. David avait, Dieu avait promis à David un descendant qui lui aura un trône qui durera pour toujours, éternellement. Le règne de David prenait fin il y a bien longtemps. Dans peu de temps, ce serait également le cas pour les dirigeants d'aujourd'hui, de notre époque, même ceux qui règnent pour toute une vie, pour le malheur de ceux qui doivent vivre sous leur règne. Non, la mort les atteindra tous. Donc Pierre continue au verset 31, dans les amis. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Oui, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Non pas, vous voyez, à ce stade, oui, pour nous, c'est le cas où selon nous, Dieu l'a ressuscité. Non, il l'a fait. Nous en sommes tous témoins. Nous l'avons vu. Les témoins sont encore ici à Jérusalem lorsque je vous parle, dit Pierre. Ils sont avec moi, donc demandez-leur. Sa conclusion dans verset 36, c'est que Jésus est le Seigneur et le Messie, le roi promis par Dieu, qui règne encore aujourd'hui car il est ressuscité. Verset 24 exprime comment cela est le cas. Verset 24, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle la retienne. Est-ce une surprise, donc, la résurrection de Christ? D'un côté, bien sûr que oui. C'est la seule, unique fois que cela arrive. Bien sûr, c'est étonnant. Bien sûr, donc, dans un sens, on a tous du mal à croire que ça soit une vérité. Mais est-ce une surprise? D'un autre côté, bien sûr que non. Il est Seigneur, Jésus. Alors, bien sûr, s'il est Seigneur, que ce n'est pas possible pour la mort de le retenir. Il règne. Il a le pouvoir au-dessous de la mort. Il vit depuis toujours. Il est Seigneur. Il est le roi désigné par Dieu pour régner pour toujours. Et donc, son règne a démarré, bien qu'on ne le voit pas forcément avec nos yeux, mais son règne a démarré dès sa résurrection. Oui, son royaume à ce stade n'est pas de ce monde-ci, mais son royaume reste pour autant réel. Son royaume se compose de tous ceux qui reconnaissent aujourd'hui son autorité. Et un jour, ce roi vaincra tous ceux qui s'opposent à lui et à son royaume. Et à ce moment-là, son royaume sera évident pour tous. Que dit le Seigneur à Jésus, selon le verset 34 et 35? Et maintenant ici, Pierre cite le psaume 110. « Assieds-toi à ma droite, dit le Seigneur donc à Jésus, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Oui, Dieu fera des ennemis de son roi, le Christ, son marchepied. C'est une métaphore, là, pour la soumission. Tous ceux qui s'opposent à Jésus doivent soumettre au règne de ce Christ. Il règne, et un jour ce règne sera connu de tous, qu'on le veuille ou non. Donc la résurrection de Jésus, c'est la déclaration qu'il règne. Alors puis-je vous demander si vous le savez, cela, ce matin? Non pas êtes-vous prêt à accepter cela pour que cela devienne une vérité pour vous. Non, le message chrétien, ce n'est pas d'abord une invitation de faire de la foi chrétienne votre propre vérité, comme s'il y a d'autres vérités qui existent. Non. Non, c'est une déclaration que c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette vérité? Si ce n'était pas ça, devenir chrétien, c'est terriblement petit, enfantin. Vous savez, j'ai un garçon, je ne vais pas vous dire lequel, qui aime jouer avec des voitures. Et il a beaucoup de petites voitures sur le tapis. Je pense que j'avais déjà dit ceci. Il n'est pas avec nous, donc je me permets de le dire. Gardez ça pour vous et merci de ne pas taquiner mon pauvre fils. Il lui reste qu'un enfant et c'est chouette. Okay? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants? Il n'y a pas encore d'enfants. Qu'est-ce qu'il fait avec ses voitures? Ces voitures deviennent des personnalités. Des joueurs de rugby, dans son cas, souvent. Il y a beaucoup de bagarres sur le tapis parce qu'il joue un grand match de rugby. Et c'est chouette. Donc, ce qui est pour lui un joueur de rugby est en réalité rien qu'une petite voiture. Il fait sa vérité à lui pour ce qui est des voitures. Très bien, c'est comme ça. Mais faire de Jésus ma vérité, comme s'il n'est pas Seigneur, mais je le dis qu'il est Seigneur, c'est d'être enfantin, mes amis. C'est ça ce que font les chrétiens? Non. Nous proclamons Jésus-Christ comme Seigneur parce qu'il est Seigneur. Alors savez-vous que c'est le cas? Non pas, je vais choisir de croire qu'il est Seigneur. Non. Le message chrétien se repose sur une vérité. Peu importe si nous le reconnaissons pour le moment ou pas. Il n'en reste pas moins que c'est vrai, Jésus règne. Savez-vous que c'est le cas? Et donc ça me mène à juste un deuxième constat de ce matin. Qu'est-ce que cela devrait signifier pour moi, le fait qu'il règne? Et donc voyons la réaction de la foule à cette prédication de Pierre pour voir comment nous devons réagir à la lumière de cette réalité. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, verset 38, « Changez d'attitude, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, premièrement, changez d'attitude, c'est ça ce qu'il dit. Si vous vivez aujourd'hui comme si Christ n'est pas Seigneur, le roi choisi par Dieu, alors vous avez tort, nous dit Pierre, vous avez tort, vous vous trompez. Il est Seigneur. Et donc, si cela ne vous convient pas, cette réalité qu'il est Seigneur, et donc ça ouvre la porte à « mais qu'est-ce qu'il pense de moi s'il est Seigneur ?» Mieux vaut découvrir, chers amis, cette réalité aujourd'hui, maintenant, quand il y a encore la possibilité de se tourner vers lui, que de découvrir cette réalité lorsqu'il vient pour nous juger, pour écraser ceux qui s'opposent à son règne. Pourvu qu'on se tourne vers lui, au lieu de continuer à vivre comme s'il n'est pas là. Se repentir, changer d'attitude, c'est changer de direction de vie. Jusque-là, j'ai vécu comme si Jésus n'était pas le Seigneur, mais maintenant, je vais le reconnaître comme Seigneur. Si on nous disait aujourd'hui que demain, il y a grève, c'est de toute façon lundi de Pâques, donc probablement il n'y aura pas grève le lundi de Pâques. Alors, je vais changer ça dans mon texte. Donc, la semaine prochaine, à partir de mardi, il y a grève des camions, et donc, et en conséquence, il n'y aura pas d'essence pendant une semaine, car ce serait impossible de faire des livraisons d'essence. Que ferions-nous en conséquence? Certains feront le nécessaire. Ils iront après le culte, ils changeront leur plan et leur projet et ils chercheront à faire le plein tout de suite pour qu'ils soient préparés pour cet événement. Mais d'autres ignoreront cet avertissement. Ils disent, bon, écoute, on va voir. Mais le jour où la grève commence, ils se diront, mais on était stupides. Car tôt ou tard, on n'aura plus d'essence. Changer d'attitude ou se repentir, c'est de changer direction face à une réalité. La réalité, c'est que Jésus règne. Et au lieu de vivre comme si cela n'est pas le cas, que je fais cela de manière bien polie ou de manière flagrante, peu importe, peu importe. Non, il faut maintenant agir en conséquence. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous fléchons le genou pour suivre le roi Jésus, alors qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Et notre deuxième chose à noter, c'est le pardon de nos péchés. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le signe externe de notre foi, notre confiance en Christ, pour le pardon de nos péchés. Oui, la résurrection déclare que Jésus est Seigneur. Mais on pourrait se demander, alors s'il est Seigneur, pourquoi devait-il mourir? En lui, il y a la vie. Il ne devait pas forcément mourir. Il est Seigneur. Il régnait tout d'abord. Était-il donc un genre d'enfant qui joue au cache-cache? Il dit, oui, je me cache pendant un peu. Ta-da, je suis là. Oh, super. Okay. C'est ça ce qu'il fait? Non, à la croix. Lorsqu'il meurt, selon, on a déjà vu, le plan de Dieu, il pourvoyait le moyen par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est grâce à la croix que le pardon de nos péchés est possible. Le Seigneur, l'autre de la vie, s'abaisse jusqu'à la mort sur une croix, où il prend notre place. Cette semaine, je pense à juste titre, nous avons beaucoup entendu parler d'Arnaud Beltrame, n'est-ce pas, dans les médias. L'officier français qui a pris la place d'une employée Super U, prise en otage. Apparemment, il a levé les mains, déposé son arme et s'est proposé de prendre la place de l'otage. Et ensuite, il a perdu sa vie après avoir fait cet échange. Son sacrifice a sauvé cette femme. Et le prêtre qui a accompagné le gendarme pendant ces derniers instants, qui avait préparé son mariage avec sa fiancée, disait ceci. Il me semble que seule la foi, seule sa foi, peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd'hui l'admiration de tous. Je crois que seule une foi chrétienne animée par la charité pouvait lui demander ce sacrifice surhumain. Mais pourquoi disait-il une telle chose, le prêtre? Car au cas de la foi chrétienne, il y a aussi une substitution, nous l'avons vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Jésus qui meurt à notre place. Au lieu d'expérimenter la peine de notre péché lors du jour de jugement où nous serons le marchepied de Jésus, non, Jésus s'est substitué. Il a expérimenté le châtiment de Dieu à notre place. Et à quel point, chers amis, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Ce qui m'a frappé, moi, personnellement, cette semaine, en relisant les récits de la dernière semaine de Jésus, c'est la triste réalité de ce qui se trouve dans l'homme. Jésus est en train d'instaurer la scène le jeudi soir, lors de la Pâque. Il parle de son sang, de la nouvelle alliance. Et le verset suivant dans le récit, on apprend que les disciples avaient une rivalité entre eux pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand entre eux. N'est-ce pas honteux qu'on lit de telles choses? Mais ça, c'est une réalité qui est dans nos cœurs également. Il y a les ennemis de Jésus qui essayent de le piéger. Il y a des amis de Jésus qui l'abandonnent. Il y a un proche qui le nie. Il y a un autre qui le trahit. C'est triste, c'est sale, mais c'est humain. C'est ce que nous sommes. Et cela confirme à quel point la mort de Jésus à la croix était nécessaire. Car c'est là où nous pouvons donc trouver le pardon pour nos péchés. Mes péchés pour vos péchés, chers amis. Au lieu de fuir le Seigneur, nous pouvons donc nous approcher de lui pour trouver pardon de sa part. On ne peut pas l'échapper. Il est Seigneur. Donc c'est inutile encore pour 10 ans, 30 ans, 50 ans. Oui, vous pouvez vivre avec votre liberté pendant un certain temps, mais à un moment donné, vous devez faire face à la réalité que Jésus est Seigneur. Et merci Seigneur. Aujourd'hui déjà, on peut plaider grâce. Jésus, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que Jésus s'est donné pour nous à la croix. Et dans verset 41, nous pouvons nous sauver de notre génération pervertie. Oui, des hommes rebelles, nous pouvons être sauvés par le sang de Jésus-Christ. Oui, nous disons au roi désigné par Dieu, comme disait la foule à l'entrée à Jérusalem dimanche dernier, « Hosanna ! Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Mais que signifie « Hosanna » ?« Accorde-nous le salut. » Accorde-nous le salut. Sauve-nous. Et ce matin, donc, on se rappelle de cela, chers amis. On remercie le Seigneur pour cela. On s'engage à vivre de nouveau à la lumière de cela. Donc, peu importe ce que vous avez comme difficulté, comme situation où vous vous êtes découragé, relation au travail, dans la famille, à l'église, lutte dans la sainteté. Aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler que notre foi, la réussite de notre foi, ne dépend pas de nous, mais dépend de la réussite de Jésus-Christ à notre place. Parfois, nous pouvons commencer la foi chrétienne avec joie, dans la liberté, et ensuite, petit à petit, oublier à quel point c'est la puissance de Christ, son œuvre pour nous par sa mort et sa résurrection qui nous suffit dans la vie chrétienne pour continuer. Nous pouvons être découragés par les difficultés et nous pouvons commencer à avoir un regard trop humain par rapport à notre persévérance. Oh, Dieu, c'est trop dur. Dans mes circonstances à moi, de continuer à suivre les voies du Seigneur. Mais c'est lui qui nous mène de la mort à la vie par la puissance de sa résurrection. Et c'est grâce à lui donc, qu'on peut encore aujourd'hui continuer à lui faire confiance, qu'il a la puissance de nous mener jusqu'au port. Je vais terminer, chers amis, avec une prière tirée de l'apôtre Paul, qui parle aussi de la puissance de la résurrection de Christ. Je vous invite à prier avec moi, si vous vous soumettez au Seigneur et au Messie désigné par Dieu. Prions ensemble. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ô Seigneur, nous te prions que nous puissions donc connaître cette puissance. Merci pour la résurrection de Christ. Merci que c'est une réalité que les premiers chrétiens ont déclaré parce qu'ils ont été témoins. Donne-nous de nous appuyer donc sur leur témoignage et de te suivre, de changer d'attitude et recevoir le pardon des péchés de ta part. Donne-nous de continuer avec persévérance dans ce message-là et cela jusqu'à ton retour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.